Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
Le même refrain dans les vestiaires de la Méno et sur le tarmac de l'aéroport d'Octeville. Très heureuse de vous retrouver dans le débrief 100% hack après ce dénouement complètement dingue. Le HAC vainqueur au bout du suspense samedi à Strasbourg grâce à une panenka d'Abdou Touré. Les Ciel et Marines assurent leur maintien dans l'élite. Pour en parler à mes côtés, comme toujours, Luc Gallet du Courrier Cauchois et Mathieu Biot de Foot Normand. Salut.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde.
Et après ce scénario fou, donc on va prendre le pouls de deux supporters à nos côtés. Le globe-trotteur Chris Fouache, président du COP Ciel et Marine, bonjour.
Bonjour.
Et Florian Edouin, alias Floc, membre du bureau des Hackfans, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on revient donc sur cette soirée d'ores et déjà historique, sur cette saison imprévisible. Et puis Mercato, rumeur de rachat, on se projette aussi sur la suite. C'est parti pour le débrief 100% hack, épisode 15.
J'ai posé le ballon, je savais que j'allais faire une panenka. Je me suis dit que pour l'histoire, ça peut être beau. Et je me suis dit, au pire, si je la rate, on va au barrage. Donc, au final, c'est rentré. Tant mieux pour nous, tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le club. Parce que cette saison, elle a été palpitante. Et je pense que finir sur cette note-là, je pense qu'il n'y a pas plus beau.
Et on se souviendra longtemps de ce samedi 17 mai 2025. 99e minute de jeu, le serial buteur du HAC Abdoulaye Touré face au gardien strasbourgeois Djordje Petrovic. C'est au fond du filet et le Havre décroche donc son maintien en Ligue 1 sans même passer par les barrages. Chris, on va commencer par vous parce que vous étiez là, comme à chaque déplacement, je crois, du HAC cette année, dans le parcage. Comment c'était ce moment, comment c'était ce match?
Bah, c'était vraiment un truc dingue, quoi. Quand on croit avoir vécu tous les scénarios avec le HAC, on arrive encore à être surpris. Parce qu'au final, quand on regarde le déroulé de la soirée, on est 15e que 2 minutes. Ouais. De la 99e à la 101e, parce qu'il faut pas oublier la dernière action de Strasbourg, où là, tout le monde a vraiment...
pour parler poliment.
Maintenant, c'est vrai qu'au début de match, on s'est tous dit qu'on allait essayer de juste se concentrer sur le HAC et pas regarder ce qui se passe ailleurs. Sauf que en 2025, c'est impossible de pas savoir ce qui se passe ailleurs. Et c'est quand on a capté que Saint-Étienne gagnerait probablement pas, on a même commencé à avoir une frustration de nous pas gagner et surtout que Lille ne gagne pas non plus. Mais après, quand tout le monde a su que Reims perdait, je pense que le message a été passé aussi sur le terrain. Et on a vu clairement que ça poussait parce que ça aurait été trop bête de rater l'occasion. Et donc voilà, donc on a le but refusé, on a la barre transversale. Ouais. Et derrière, au bout du bout, la délivrance. Alors le contrôle VAR a été très long dans le parquage. Mmh. Parce qu'il faut savoir que nous, même si on est au courant de plein de choses, tu sais pas vraiment ce qu'ils sont en train de regarder à la VAR. Et du parquage, tu vois pas grand chose non plus sur le terrain. Donc ça a été très long avant que le pénalty soit tiré.
Et soit donc marqué et rentre au fond du filet. Floc, en direct de la fédé des supporters du local, ça devait être assez sympa aussi à suivre.
Ouais, c'était sympa aussi.
Est-ce qu'on voyait l'écran?
Parce que... Oui, on voyait l'écran.
On avait les fumigènes un peu autour.
On avait trois écrans à l'intérieur et un à l'extérieur. Et c'était une délivrance. Je crois que le terme est bien choisi. Délivrance, on s'attendait pas forcément à ça au début du match. Moi, à titre personnel, Mathieu Bonnemer dirait que je suis encore un incorrigible pessimiste, mais on a organisé la diffusion au local. J'étais quasiment persuadé qu'on faisait ça pour la forme parce que j'y croyais plus beaucoup. Je voyais pas du tout Toulouse gagner contre Saint-Étienne. Et puis, on s'est un petit peu détendu au bout d'un quart d'heure quand on a vu que Toulouse menait 2-0. On s'est dit, tiens, au moins, on va peut-être réussir à aller au barrage. Et puis, le scénario qui se décante au fur et à mesure, on voit que Lille ouais, prend le dessus sur Reims, et puis nous qui sommes ex aequo avec Strasbourg, les joueurs qui poussent, et là la panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club, quoi, clairement.
Mathieu, on avait échangé juste avant ce match pour faire un petit point sur les scénarios possibles. Et vous me disiez, tout est possible dans le foot. Ceux qui regardent le calendrier, qui se disent qu'il est plus favorable, se trompent. La preuve.
Il y a le calendrier et l'analyse du papier, entre guillemets. Toujours, on se dit forcément, les clubs qui n'ont plus rien à jouer. Mais l'histoire du foot regorge d'exemples comme ça, où il y a des clubs qui se font piéger par des fameux clubs qui n'ont plus rien à jouer. Je crois que surtout la morale de l'histoire, c'est que les matchs, faut les jouer. Peu importe qu'il y ait de l'enjeu ou il n'y ait pas d'enjeu, faut les jouer. Et qu'on se rend pas compte aussi. Alors oui, il y a les clubs qui n'ont peut-être plus rien à jouer, mais aussi les clubs qui ont quelque chose à jouer, comme Saint-Etienne. Et on ne sait pas dans quel état psychologique ils peuvent être et comment ils abordent ça. Ça, c'est certain. Ce qu'on peut dire, c'est que ouais, le Havre, eux, ils ont bien abordé ce rendez-vous. Et on en reviendra plus tard, mais globalement, toutes ces deuxièmes parties de saison, en étant acteurs de leur propre destin. Je veux dire, ils ont été ce maintien, ils ont été cherchés, rien qu'il a été donné, ils ont été l'arraché jusqu'à la dernière seconde. Et ce match de samedi soir, si on se passe d'un point de vue un peu plus neutre, c'est un très bon match de foot. C'est un très bon match de foot. Alors voilà, il y a des buts, il y a des retournements de situation, il y a des occasions. Chris a fait référence, il y a ce but refusé là pour une règle que je connaissais même pas. voilà, ouais, avec ce pied d'Yacine Keita.
Il y a un penalty qui est un peu oublié aussi.
Voilà,
peut-être.
Cette barre de Hassan Kouka. Voilà, voilà, je pense que samedi soir, ce qui s'est passé, c'est ce que tous ceux qui aiment le sport et qui aiment le foot en particulier, ils recherchent, c'est qu'il y a des émotions. Et quand Flock dit il est rentré dans l'histoire, moi je pense que c'est, alors je connais pas le peuple s'il est marine, mais moi je pense que c'est un match dont dans 50 ans les gens reparleront et se diront j'étais là, j'étais présent, tu te souviens ce samedi soir quand Abdoulaye Touré, tu sais ce joueur qu'on avait repris, relancé, qui venait du Genoa, qui jouait plus, nous a maintenu d'un geste fou. Il y a des matchs comme ça qui rentrent dans l'histoire et je pense qu'il en fait grandement partie.
Luc, ouais, est-ce que vous raconterez ce match à votre fils ?
Oh bah oui, ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, oui, je suis dans le même état d'esprit. Pour moi, c'est un match presque d'anthologie. Enfin, quand on voit tout ce scénario, et je trouve qu'il reflète un peu la saison du HAC en fait, ce match.
Complètement.
Des difficultés sur le début du match, sur la première partie de la saison. Une réaction du jeu, plus d'allant sur la deuxième période. Je trouve que ce match, il résume clairement la saison du HAC. Et dans toutes ces difficultés, aussi d'arbitrage, parce que mine de rien, encore une fois, quand on voit le but refusé sur les VAR avec c'est même pas un pied, c'est un orteil, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin, pour moi, c'est ridicule ce but annulé.
La règle est ridicule.
Ouais, la règle est ridicule en soi. Pour moi, il est en dehors de la surface. Hein, c'était un ridicule. Donc, il y avait de quoi encore s'énerver contre l'arbitrage, comme souvent d'ailleurs cette saison. Hein, d'ailleurs, on va pas se cacher. Mais ouais, de voir surtout ce hack et surtout cette réaction encore une nouvelle fois, ce mental de cette équipe havraise. C'est clairement sur ça où la deuxième partie de saison est incroyable du hack. C'est mental, c'est ressources à chaque fois pour renverser des situations. Je crois qu'il y avait une stat aussi, j'ai regardé 14 points je crois obtenus en étant mené, crois
5e meilleure équipe en étant mené, ça c'est une stat qui est dans l'équipe du jour.
Ouais.
Voilà. Donc voilà. Des vrais combatifs.
Et à la fin en plus cette émotion et ce côté un peu fou. Et sachant qu'on a un joueur qui est quand même, j'allais dire qu'elle est coronesse, hein, clairement, on peut pas dire le contraire. Quand on voit cette Panenka tenter au bout du bout d'une dernière journée, c'est incroyable. Voilà, donc un match d'anthologie, clairement.
Mais ça, c'est parce que Didier Deschamps l'avait rêvé. C'est un peu comme Jim Morrison qui...
Il l'a dit, en tout cas.
C'est prophétique.
Ouais.
Je crois que c'est Loïc Négo qui dit « Le ressenti est aussi fort que pour un titre. » Est-ce que quand on est supporter, alors on n'a pas encore parlé de l'aéroport, mais c'était fou... aussi, est-ce que quand on est dans le parquage, on ressent ça aussi, quoi ? Est-ce que c'est aussi beau que une montée en Ligue 1, Chris ?
Alors le scénario rend ça encore plus fou parce qu'en fait, on passe par toutes les émotions. En fait, on est mené, au final, on espère les barrages, que ce soit un moindre mal, et tu te rends compte qu'au final, tu peux avoir beaucoup mieux. Et non, quand il y a le penalty, ouais, c'est une délivrance. Je sais pas ce que ça fait de jouer le titre pour ton club de cœur, malheureusement. J'espère qu'on le saura un jour. Mais là, c'est ce qui se fait de mieux pour nous, dans notre situation, tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu. Voilà, la dernière minute comme ça, je pense que ça doit valoir peut-être pas un titre, mais ça
par rapport au titre de Ligue 2, par exemple.
Mais oui, on peut faire la comparaison avec le titre de Ligue 2, on en parlait. Est-ce que c'est pas plus fort ?
Ah, c'est plus soudain et plus violent parce que le titre de Ligue 2, même si on a eu du mal à l'acter,
on a fait
32 matchs sans perdre, donc ouais. On l'attendait. Voilà, c'est juste la conclusion qu'on a eu du mal à obtenir, mais on l'attendait et donc il y avait pas ce côté soudain abrupt. Là, voilà, en 90 minutes, on est passé, pour ma part, en tout cas, du désespoir à cette délivrance qui était incroyable. En fait, les émotions étaient violentes, quoi. Et c'est ça qui fait que ce match est absolument génial.
Et c'est ça qui fait qu'on se dit tous à l'aéroport.
Exactement. Ouais. juste après le match, on a battu le rappel Et le rappel
a bien fonctionné visiblement.
A très bien fonctionné. On en a déjà fait des accueils à l'aéroport, mais celui-là, je crois qu'il restera dans les annales. Mmh. Parce qu'honnêtement, on devait pas être loin de 1500-2000. C'était du délire. On a Romain, donc BH et Akfan et notre capot qui avait pris la sono parce qu'on savait qu'on aurait un petit peu d'attente. On s'est mis en mode boîte de nuit et ça a chanté jusqu'à l'arrivée des joueurs pendant 2 heures, jusqu'à 3 heures moins le quart. Et là, l'arrivée des joueurs, c'était exceptionnel. Je pense même qu'ils s'attendaient pas du tout à ça, les gars.
Mmh. Yacine Kechtaï et Faliat.
Oui, ouais, bah tout le monde s'est un peu fait câliner, bousculer, des petites tapes dans le dos, mais c'était un moment super sympa.
Est-ce que, alors, question un peu peut-être provocatrice, est-ce que le fait qu'il y ait énormément de monde, que cette foule soit arrivée, c'était un peu une façon aussi de finalement dire bon, tout est pardonné entre guillemets et voilà, et avec une saison qui a été parfois tendue, y compris dans les tribunes.
Ouais, je trouve qu'on surréagit un peu parfois la grogne qu'il y a eu. J'ai pas l'impression qu'on ait été si vindicatif que ça. En tout cas, à l'endroit des joueurs, jamais. J'ai pas l'impression. Même si on s'est un petit peu ému en fin de première partie de saison, des résultats, parce qu'on prenait dérouillé sur dérouillé à domicile. J'ai pas l'impression qu'on ait été si véhément que ça. Pour pardonner, faut avoir reproché. Je crois pas qu'on ait reproché quoi que ce soit aux joueurs. Jusque-là, donc non, il n'y a jamais eu de rupture, en tout cas avec les joueurs.
On va peut-être justement parler du coach. Le débrief 100% qui se poursuit, donc comment faire le bilan de cette saison sans évoquer Didier Digard, entraîneur au cuir solide, sifflé dès le mois d'octobre, critiqué, souvent incompris, en début de saison, et finalement félicité pour notamment cette deuxième partie de saison qui a été réussie. C'est beaucoup grâce à lui qu'on est là où on est, ça c'est ce qu'a rappelé Josué Casimir sur DAZN samedi soir. Évidemment, le coach est revenu sur cette relation particulière avec le public, une partie du public au moins en conférence de presse. Après le match, on va l'écouter.
Quand on me connaît pas, bah, au début ça pique un peu, parce que je dis tout en face, mais aux joueurs. On m'est tombé dessus parce que je les protège beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est parce que je les ai beaucoup protégés et qu'ils avaient à cœur de me le rendre. Et après, c'est très beau pour ma famille parce que bah, c'est eux qui ont souffert au final. Moi, je suis un peu bête et bourrin. J'ai l'habitude. Je suis exposé depuis très longtemps maintenant et je n'ai pas une tête qui plaît énormément. Juste qu'on ne remette jamais mon investissement en question. J'ai vécu des dernières semaines très compliquées d'un point de vue familial. Et personne n'a rien vu et j'ai toujours tout donné pour ce club. J'accepte qu'on dise que je suis mauvais, mais pas que j'aime pas ce club.
Je n'ai pas une tête qui plaît énormément. On a souvent parlé de délit de sale gueule à ce micro. Je vous vois hocher la tête, Floc. Est-ce qu'un coach avait déjà été si vivement critiqué si tôt? On en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois que vous êtes venu là. Mais c'est difficile de faire des conclusions peut-être hâtives, mais...
Enfin, oui, il y a eu des coachs qui ont été critiqués d'emblée.
On va se dire, il y a une scène qui a marqué l'environnement extérieur. C'est surtout ça. C'est le fameux match de Toulouse, hein, si je me trompe pas. Ouais. Où pendant plusieurs minutes à la fin, c'est vrai qu'il est tensé de manière assez appuyée, le coach. Et ça a marqué, on va dire, l'environnement extérieur, peut-être. Et du coup, c'est vrai que c'est comme tout, ça marque un petit peu les esprits. Après, depuis ce match de Toulouse, moi, j'ai aussi l'impression quand même que c'est revenu un petit peu au calme. Alors, je sais pas si après, il y a eu des discussions un petit peu en interne entre les groupes de supporters et le coach ou les joueurs. Mais c'est comme tous. On disait que le match de samedi a marqué les esprits positivement. Cette scène-là, elle avait peut-être marqué les esprits négativement. En tout cas, des gens qui sont extérieurs au groupe de supporters. Parce qu'encore une fois, en fonction de sa position, on peut réfléchir différemment et percevoir les choses différemment.
Enfin, ce qui est paradoxal, justement, c'est que la défiance qu'il y a eu vis-à-vis de Digard au départ, de Didier, pardon, elle émanait surtout du public, des gens extérieurs au groupe de supporters. Mmh. Et c'est là qu'on a parlé de délit de sale gueule. Et on en a parlé ensemble quand j'étais là en milieu de saison. Il y a jamais eu de défiance des groupes vis-à-vis de Didier Digard. Par contre, effectivement, quand on fait un mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, en prenant des valises à 3-0 et 4-0, et il n'y en a pas eu qu'une ou deux, hein, il y en a eu beaucoup.
5-6, oui.
Et une élimination en Coupe de France.
À un moment, il y a eu de l'agacement. Il y a eu beaucoup d'agacement. Et je pense que plus que la remise en question de Didier Digard, c'était de la remise en question des résultats qu'il y avait, et la tribune a voulu créer un électrochoc à ce moment-là. Je pense que ça a été surcoté. J'ai pas l'impression, encore une fois, je le répète, qu'on ait été très vindicatif vis-à-vis des résultats qu'on voyait à domicile. Et il n'y a jamais eu de communiqué assassin sur Didier Digard. Il n'y a jamais eu de banderole assassine sur Didier Digard. Il n'y a jamais eu de directive des groupes de nuire à Didier Digard. Je pense qu'il y a, il y a peut-être un petit effet loupe aussi.
Un peu un effet médiatique.
Oui.
Ça que... Chris, en plus, on le dit souvent, les parkages, eux, extérieurs, sont toujours remplis. L'ont été dès le week-end suivant ce fameux match de Toulouse. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous vous rappelez aussi souvent. Les Hackmen, ils sont là derrière, derrière
parce,
le club.
Parce que de toute façon, nous, c'est notre raison d'être. Quoi qu'il arrive, on sait qui on est. On sait que de toute façon, il y aura toujours beaucoup de difficultés pour nous. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne remettait pas en cause notre investissement. Parce que comme le disait Floch, la première grogne est venue, je crois, lors du match de Strasbourg, où justement les groupes de supporters avaient décidé de sortir du stade en signe de mécontentement pour justement pas alimenter quoi que ce soit. Et certaines personnes sont montées sur les murets et ont insulté ou se sont pris plus à Didier Digard ce jour-là. C'est pour ça que nous, après, on avait clarifié les choses avec le club, que ça ne venait pas forcément des groupes de supporters. Mais nous, on était sortis pour manifester justement un mécontentement, mais pacifique, sans problème. Après, ce qui fait que ça a changé la donne, c'est que justement, sur la phase retour, ces fameux matchs où on était menés, au lieu de finir par les perdre 3 ou 4-0, on a réussi à les retourner, que ça soit à Lens, que ça soit contre Nantes, on réussissait à les retourner. Et c'est ça qui a fait la différence. Nous, c'est ça qui nous avait inquiété fortement, c'est qu'à partir du moment où tu prenais un but, t'avais de grandes chances d'en prendre 3-4.
Je crois que c'était plutôt l'absence de réaction, justement, qui était un peu pointée du doigt. Quoi.
Exactement. Il est important ce mot absence de réaction. On avait l'impression d'avoir une équipe apathique en fin de première partie de saison, et on a vraiment voulu créer un électrochoc. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? On n'en sait rien. Mais voilà, il n'y a jamais eu d'anathème contre Didier Digard. Et si je peux me permettre de passer un petit message dans cette émission-là, il y a une petite musique qui commence un petit peu à m'agacer de dire que ouais, les supporters ont lâché à un moment. C'est pas vrai. On n'a jamais lâché. On a eu toujours le même discours. Tant que les joueurs et le staff ne lâchent pas, on ne lâchera pas. Et il suffit de voir, comme vous l'avez dit, comment les parkages étaient garnis, les animations qu'il y a eu. On n'a jamais lâché. Donc j'aimerais pas qu'on dise que les supporters à un moment, ont pas tiré dans le même sens. C'est pas vrai. Et je paraphraserai Didier là-dessus. On peut douter de beaucoup de choses à notre égard, mais surtout pas de notre investissement et de notre attachement au club.
Et d'autant plus dans les matchs à l'extérieur, parce que quand on voit le nombre de supporters, très souvent, on était à plusieurs centaines de supporters à chaque fois sur chaque déplacement. Là, ça, on peut pas douter justement de l'investissement de ces supporters-là et vraiment de ces fans. Plus, quoi. Enfin, là-dessus, c'est vrai que c'est indéniable.
Et le paradoxe de la saison, c'est ça aussi, c'est que on parle du maintien, mais c'est un maintien qui s'est construit principalement à l'extérieur. Le Havre a été bien meilleur à l'extérieur, donc on faisait 6e bilan de Ligue 1 sur l'ensemble de la saison, 2e bilan extérieur sur la phase retour. Le classement à domicile.
Est-ce qu'il faut le donner?
Donne-nous-le, ça expliquera aussi cette forme de mécontentement.
C'est voilà. Donc en fait, le Havre a fait une très belle deuxième partie de saison, mais c'est vrai que c'est bon. Alors je sais, moi j'ai pas les raisons de pourquoi plus performant à l'extérieur qu'à domicile, mais c'est vrai que ceux qui ne voient entre guillemets au stade que les matchs à domicile, il y a peut-être un sentiment de frustration qui peut se créer de manière assez légitime, alors que ceux comme Chris qui font tous les déplacements, c'est vrai qu'il y a eu Strasbourg qui est le summum, mais il y a eu les victoires à Lille, les victoires à Lens, plus récemment la victoire à Auxerre, qui est une très belle victoire quand même, parce que faut se rappeler encore une fois, moi j'ai pas peur de le dire, de ce qu'on disait avant Auxerre qui était dans que les 4 à Lens. Et qu'on disait Auxerre, il marche sur le feu, mais ça va être impossible de ramener des points de là-bas. C'est un peu ce qu'on disait de l'extérieur. Et encore gros match, encore une fois renversement de situation. Donc c'est vrai qu'à domicile il y a pas eu ça. Et après sur la deuxième partie de saison, bon, on y viendra après. Il faut pas se mentir aussi, c'est vos résultats, ils dépendent aussi de la qualité de vos joueurs.
Aussi.
Et vous aviez un meilleur effectif et une meilleure équipe en deuxième partie de saison. Et comme de par hasard, vous avez plus de résultats. Quelle que soit la qualité de l'entraîneur Didier Digard ou de n'importe quel entraîneur, vous êtes meilleur quand vous avez des bons joueurs. Et la clé de cette saison, elle résidera quand même dans ce mois de janvier et dans cette capacité à avoir régénéré l'effectif. C'est les joueurs que vous avez fait venir de l'extérieur, mais qui ont aussi boosté ceux qui sont restés.
Et apporté de la plus-value, clairement, sur des postes où il y avait des défauts. D'autant plus, d'où le travail clairement précieux de Mathieu Bonnemer là-dessus. Ouais.
Sur le mercato, on parlait justement de ce que Didier Digard faisait en première partie de saison. En première partie de saison, il donnait aussi l'impression de bricoler parfois avec des changements de schéma tactique. Il s'évertuait avec une défense à 5. Voilà, il y avait des joueurs qui jouaient pas leur poste. Enfin, il a quand même mis Rasoul Ndiaye en 9 aussi, hein, faut s'en rappeler.
C'est vrai.
On a retrouvé une certaine stabilité tactique à partir du moment où on a eu le mercato d'hiver. On a retrouvé déjà des joueurs qui étaient un peu plus morts de faim, en tout cas dans le langage corporel, qui donnaient plus l'impression de l'être. Et on a retrouvé une certaine assise tactique. Et c'est là que Didier a aussi pu s'exprimer à ce moment-là, quoi.
On n'a pas rappelé le bilan comptable en fait de cette saison. D'ailleurs, il l'a glissé hein, un petit peu après le match Didier Digard en rappelant que finalement le HAC donc termine 15e avec 34 points, c'est 2 points de plus que l'année dernière. Mmh. 10 victoires contre 7 l'an dernier sous la deuxième saison Lucas Elsner et 40 buts contre 34. Donc finalement, quand on sort la calculette, voilà, forcément cette saison mais sur le papier est meilleure que celle de l'an dernier, en tout cas d'un point de vue comptable.
Oui, alors après je comprends que Didier dit ça pour défendre son bilan, mais je suis pas sûr que la comparaison elle est particulièrement judicieuse de mon point de vue. C'est deux saisons différentes, deux coachs différents, deux effectifs différents,
deux époques différentes aussi,
deux dynamiques. Voilà, je pense que la saison dernière a été aussi très bonne par certains aspects, mais complètement différente parce qu'il y a aussi dynamique de la montée, que c'est plutôt, vous êtes plutôt construit, les résultats quasiment jusqu'à janvier, si je me trompe pas, janvier-février, et après ça a calé sec, mais vous aviez quand même fait le boulot avant et vous avez donné le petit coup de rein qui vous a suffi pour la victoire ou deux qui vous a suffi. Là, c'est différent, et là il a fallu garder la tête hors de l'eau quasiment pendant 6 mois. En grattant une victoire contre Montpellier à domicile, si je me souviens bien, la victoire à Nantes qui est précieuse, mais c'était vraiment des points et voilà. Et là en janvier, avec ce qu'on a expliqué, le mercato et puis pas mal de changements, là vous avez réussi à faire une moyenne de points bien meilleure. Hein, qui, si vous prenez votre moyenne de points de la phase retour, c'est le milieu de tableau hein, que vous êtes. Hein. Donc c'est vrai que c'est deux saisons complètement différentes que je trouve pas spécialement pertinent de comparer en tout cas.
On sait que les concurrents du HAC ont parfois changé de coach en cours de saison, notamment à Reims. Hein, on parlait de Lucas Elsner, voilà, il était changé. Montpellier aussi, Saint-Étienne aussi.
Saint-Étienne aussi.
Le fait que le club ait décidé rapidement de dire non, on change pas le coach. Chris Flock, votre avis là-dessus, et est-ce que finalement, on se dit au point, on sait qu'il y avait pas forcément les moyens non plus derrière, hein, d'aller, mais.
Déjà on n'avait pas le choix, mais c'est aussi la responsabilité des dirigeants de dire non, ce coach là on le conforte, on croit en lui, voilà, nous on n'a pas à juger ça, encore une fois nous on est là pour supporter, parfois créer un électrochoc comme ça a pu être fait ou envoyer des messages, les résultats leur ont donné raison, merci Didier, voilà.
Est-ce qu'on signe pour une deuxième saison avec Didier Digard, messieurs, l'un et l'autre ?
Ah, est-ce qu'on a le droit de choisir ?
Ouais. Bon, non, mais c'est sympa. Si
après, je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de changer, vu que de toute façon, l'objectif était clair dès le début, c'était de se maintenir au final, quoi qu'il arrive. À une période de la saison, on a écouté les explications de la direction et de l'entraîneur de pourquoi ça n'allait pas. Ils nous ont expliqué ce qu'ils allaient essayer de changer. Au final, le résultat leur donne raison et. Il n'y a pas de raison de changer aujourd'hui.
Et moi, je préciserais sur le fait de ne pas changer d'entraîneur. Je pense qu'une des clés du maintien du HAC, c'est surtout que le bloc dirigeant, coach, staff soit sur la même longueur d'onde. Moi, je trouve qu'on ressentait déjà ça, par contre, les saisons d'avant avec Lucas Elsner, avant que Lucas Elsner décide, voilà, pour des raisons, on va pas revenir, de quitter le navire. Là, moi, on sent toujours, en tout cas de l'extérieur, on se dit jamais, tiens, Didier Digard, il va être menacé.
Voilà,
il y a peut-être effectivement des impératifs économiques hein, qui rentrent en ligne de compte, peut-être, mais en tout cas, on le sent jamais. Et ça, moi, je crois que c'est important, et c'est aussi important vis-à-vis des joueurs, parce que quand vous sentez pas ça, il y a des failles qui peuvent se créer après, et les joueurs, ils peuvent sentir que le coach est fragile, et c'est plus la même chose. Et je crois que c'était un peu tous dans le même bateau, donc on va citer Jean-Michel Roussy, le président, et Mathieu Bonnemer, le directeur sportif et patron de la politique sportive du club. Voilà, ils n'ont jamais dérogé de cette ligne de conduite, hein, notamment Jean-Michel Roussy qui a beaucoup plus pris la parole cette saison, je trouve, que Mathieu Bonnemer, ouais. Qui a vraiment été au front sur plein de domaines, mais notamment sur le domaine de la défense du coach. Et ça, moi, je crois que c'est très important. Alors, bien sûr, quand vous êtes en difficulté, le premier réflexe, c'est de changer de coach. Mais on voit bien que c'est pas la recette miracle, mais il faut surtout c'est croire dans le coach. Et à travers les déclarations des joueurs depuis samedi, on n'a pas visiblement, le coach, il avait pas perdu son vestiaire, et c'est ça qui est important. Et encore une fois, quand vous ramenez des joueurs de meilleure qualité et que vous arrivez à tous les mettre sur le même objectif, bah forcément, vous avez des meilleurs résultats.
Avec un groupe resserré et qui a défendu son coach jusqu'au bout sur le terrain. Donc, oui.
On a entendu les gars en conférence de presse dire « moi, j'aimerais rester ». Voilà. Après, il y a des discussions. On verra ce que ça donne.
Est-ce qu'il peut être... Enfin, je n'ai pas d'infos du tout.
Il a un an de contrat.
Il va un an de contrat.
Voilà.
On n'était pas là, on faisait pas l'émission il y a un an. Souvenir comment ça s'est passé avec Lucas Hesner. Je pense qu'au soir de la dernière journée, je crois que c'était contre Marseille, si je me souviens.
C'est ça.
Oui.
Bon, ici, il y avait eu quelques rumeurs qui avaient commencé à, je me rappelle, sur les réseaux, mais personne.
En avril.
Ouais.
On leur avait pas donné beaucoup d'importance, mais.
Enfin, en tout cas, moi, je leur avais pas donné beaucoup d'importance. Oui. Tout le monde disait, ouais, c'est encore des bêtises racontées sur les réseaux. Bon, moi, je me souviens que j'ai fait un rendez-vous avec Lucas Hesner, j'ai pas eu le temps d'écrire mon article que.
Ouais. En même temps, je crois que c'est une info qui venait de Mohamed Toubachter, donc souvent, ces infos-là, tu peux les remettre en question.
C'est sûr. Le plus grand ami, le plus grand supporter du club. Mais, donc, voilà. Moi, je pense que, effectivement, je pense que Didier Guerre va rester. Mais maintenant, il faut aussi se dire que.
Ouais. Ma question, c'est est-ce qu'il peut être courtisé aussi après, justement, l'aspect un peu combatif qu'il a montré, son discours, ça peut aussi être peut-être intéressant pour certains clubs
Ça, c'est possible. Enfin, oui, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible. Après, je pense que comme tous les coachs, il va essayer d'obtenir le plus de garanties possibles sur l'effectif, on y viendra après, qu'il aura à disposition. Je pense que si Lucas Hesner est parti, alors oui, il y avait la proposition de Reims, et il a certainement vu ça comme une progression sportive.
Il y avait surtout les moyens.
Je pense qu'il a eu peur. Enfin, pas peur, mais il s'est dit « je ne pourrais pas faire mieux à l'effectif qui est à ma disposition ».
Je n'ai plus l'énergie de faire aussi bien avec aussi peu.
Voilà.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que ça, même s'il n'a fait que 2 ans, mais ça use. Et on voit Didier, moi, je me suis juste permis d'adresser un texto de félicitations à Didier Ligard. Et sa réponse, c'est « je vais dormir jusqu'à la reprise de l'entraînement ». Alors, bien sûr, sur le tour de la boutade, mais je pense qu'on ne se rend pas compte, alors, même si, bien sûr, il y a bien pire comme boulot dans la vie, mais on se rend pas compte de l'usure peut-être que ça peut bouffer physiquement et psychologiquement. Donc c'est vrai que c'est peu...
Moi je pense que l'inconnu est plutôt là, parce que faut absolument pas douter de son attachement au club. C'est un gamin de la KV, c'est un régional. Quoi qu'on pense de lui, son attachement au club, il est sincère et réel.
Je n'ai pas la tête ailleurs, mais il a aussi évoqué des soucis personnels. On sait qu'il est loin de sa famille.
Ça, c'est autre chose. Il a des soucis personnels.
Ça peut aussi peser sur une décision, peut-être. On ne sait pas.
Ça, c'est on ne sait pas. Donc, ça, c'est autre chose.
En tout cas, il ne l'a pas caché en conférence de presse après match. Il a dit sur la fin, je suis complètement cramé. Donc,
carbonisé. Je suis content de ne plus vous voir en conf de presse pendant un moment. En gros, c'est ce qui.
Ouais, sous le tour de la blague encore. Moi, je tiens à dire que c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment un bon client en conférence de presse. Ça fait pas gagner des matchs, je tiens à dire tout de suite.
Tu trouves pas qu'il parle trop lentement ?
Non, c'est une... Moi, j'aime beaucoup Didier Ligard, mais je trouve qu'il joue parfaitement le jeu et tout. Mais par contre, oui, je pense que c'est un entraîneur qui peut avoir la cote. Hein. Son passage à Nice quand même l'avait un petit peu révélé. Et il a les codes aussi un petit peu. Il est jeune. Je pense qu'il comprend bien les nouvelles générations de joueurs. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement recherché dans les clubs.
Eh ben, on va continuer à parler de l'avenir, justement, dans le débrief 100%, qu'on va se projeter sur ce qui nous attend. Alors, à très court terme, c'est une prise de parole du président Jean-Michel Roussier et du directeur sportif Mathieu Bodmer mercredi au Stade Océane. Ce sera l'occasion, forcément, de leur parler un peu finance. On va faire aussi d'abord un point sur le mercato. 16 joueurs en fin de contrat, dont un certain monsieur Ayou, qui était en zone mixte samedi soir.
Quand j'ai re-signé, j'ai dit écoute, je suis là pour faire en sorte que ce club reste en Ligue 1 et chose faite, alors je suis très content et très fier. Et j'ai vu grandir beaucoup de jeunes joueurs, j'ai eu passé beaucoup de temps avec eux. Et aujourd'hui, les voir faire ce qu'ils ont pu faire dans ces 5-6 derniers matchs montre qu'ils ont appris, qu'ils ont progressé, qu'ils ont été forts mentalement. Et voilà, je pense que pour ça, et pour aussi d'autres choses, j'ai réussi ce que je voulais faire ici et je suis vraiment content de tout ça.
André Ayou a rempli sa mission, donc il fait partie des 16 joueurs en fin de contrat. On va peut-être les énumérer, ces joueurs côté gardien, Arthur Desmas, Mathieu Gorgelin. Chez les défenseurs, Loïc Négo, Faudé Balotouré, Timothée Pembélé qui est de retour
par
Sunderland. Oui, voilà, je m'emmène dans mes notes. Du côté du milieu de terrain, Abdoulaye Touré, on va y revenir, Dallaire Koudieff, Aloïs Confé, Junior Manga, qui est donc un prêt de Strasbourg pour la fin de saison. Mahamadou Diawara, également prêté
même
par Lyon, et même cas de figure pour la fin de saison. Et du côté des attaquants, Josué Casimir, André Ayou, on en parlait, Ahmed Hassan, Antoine Joujou, qui lui a été vendu à Parme et qui était donc prêté pour cette saison. Ilyes Housni, qui était prêté par le PSG. Et Yann Kitala.
On l'avait presque oublié.
Voilà.
Merde.
J'avoue que tout à l'heure, en regardant la liste, voilà, j'avais un peu oublié aussi liste que vous avez établie, Mathieu. Il y a déjà des petites choses qui ont bougé. Est-ce qu'on a des choses sûres là? On a entendu certains joueurs qui ont dit à l'année prochaine. Bon, il ne faut pas forcément tenir compte.
Alors, l'info du jour, c'est qu'Abdoulaye Touré, du coup, il y avait une option dans son contrat et donc, du coup, qui a été levée automatiquement, vu que ça dépendait du nombre de matchs qu'il disputait. Donc, Abdoulaye Touré n'est pas libre. Il est sous contrat, du coup, jusqu'en 2026.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'il sera ciel et marine la saison prochaine, mais ça signifie que s'il part, il faut qu'il y ait une négo. Et voilà. Donc, ça, c'est la chose. Donc, après, c'est vrai qu'il y a eu la fameuse déclaration de Josué Casimir, hein, qui a dit je serais fier d'être ciel et marine la saison prochaine, hein, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Sauf que techniquement, Josué Casimir, il fait partie donc, du contingent des joueurs libres au 1er juillet. Le discours de Mathieu Bonnemer, c'est de dire aujourd'hui, il y a aucune prolongation qui est actée. Voilà. Ma petite expérience des relations avec Mathieu Bonnemer, que j'adore au demeurant, c'est que des fois, il est extrêmement prudent pour lâcher les infos. Donc, peut-être que c'est bien dans les tuyaux quand même la prolongation.
Peut-être
mais
que
qu'il
d'ici
veut
la
pas
publication de ce podcast.
Exactement. Voilà. Enfin, dans le foot, tout peut se passer. Faut pouvoir. Enfin, personne sera surpris si dans quelques heures, on a une annonce de prolongation. En tout cas.
C'est pas encore fait mais dans les faits.
Le discours qu'il m'a fait, c'est qu'il n'y avait aucune prolongation d'actée parmi tous les joueurs qu'on a listés et que parmi les joueurs qui étaient prêtés, certains, il y avait des options en cas de des options, voilà. Et donc, pour l'instant, aucune n'a été levée aussi. Voilà, je pense que, bon, vraiment, je pense que l'équation financière va tout déterminer et que pour le moment, il n'y a pas se passer non plus grand chose. Je pense qu'il y aura une autre actualité. On va y revenir dans quelques minutes. Qui pourra aussi influencer ce qui va se passer dans les prochains mois.
Et qui sera peut-être bien plus urgente d'ailleurs pour l'avenir du hack, oui, ça c'est sûr.
Une actualité financière. Un petit mot d'abord avant de parler justement des finances. Si vous aviez le choix pour une recrue, quel poste, quel joueur, est-ce que vous y avez réfléchi? Alors, certains étaient déjà au courant de cette question, peut-être.
Ouais, certains l'ont suggéré dans le groupe WhatsApp de l'émission. On balancera pas qui, mais bon.
Dévoile les coulisses, en tout cas.
Non, mais vous avez pas un petit joueur bon, abordable financièrement, hein, vous avez compris que.
Ah bah, ça fait beaucoup de paramètres, hein, après.
Ah bah oui, mais bon, sinon c'est facile, hein. On va donner des joueurs.
Abordable financièrement, t'as déjà. t'as déjà tué un peu la réponse à la question.
On aurait dû la voilure, quoi, déjà, ouais.
Bah Mathieu, une idée peut-être avant que comme ça laisse plus de temps
c'est
pour réfléchir.
Ça va coûter pas très cher ça.
Attention Saint-Etienne, ils sont meilleurs en égo que pour la défense. Non mais au-delà d'une idée, c'est vrai que la révélation.
Que du côté de Caen, on pourrait pas aller chercher.
Je conseillerais pas.
Bah, faut des joueurs de qualité. Quoi.
Ouais, alors je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle, mais il y a toujours un ou deux joueurs à récupérer, mais je suis pas sûr. Mais je trouve que une des belles trouvailles de cette saison, c'est Yanis Zouaoui, pour moi, qui vient de Martigues, national à l'époque quand même, alors bien sûr promu en Ligue 2. Même s'il n'a pas toujours joué, j'ai trouvé qu'il a montré des choses plutôt intéressantes, avec un beau pied gauche. Et alors bien sûr, il faut pas recruter 10 mecs de national, parce que sinon ça n'ira pas. Mais je trouve que c'est aller voir ce qui se passe en bas, ne pas avoir peur de prendre un ou deux joueurs. Moi, j'ai eu la chance cette saison de regarder quelques matchs de Coupe de France, car il y a un club normand qui a fait un parcours, et notamment j'ai été voir un match à Cannes, et je peux vous dire qu'il y a des joueurs à Cannes, ils sont intéressants. Oui, c'est de la N2, oui. Alors, encore une fois, faut pas en prendre 10, hein, mais sur le modèle de Zouaoui, en prendre 1-2, parce que forcément, ça coûte moins cher, parce que déjà souvent, ils sont libres parce qu'ils signent que des contrats de 1 an, et qui représentent un faible risque financier à l'échelle de la Ligue 1 par rapport à ce qu'ils peuvent percevoir. Je trouve que c'est intéressant et je pense que c'est une piste aussi à creuser. Et je trouve que Le Havre est aussi en train de se tailler une petite réputation de joueur à relancer, ce qu'ils font très bien. Et pourtant, Dieu sait que c'est compliqué. Dieu sait qu'il y a des clubs qui se pètent la gueule en faisant ça. Parce qu'en fait, sur les recrues, par exemple, du mercato d'hiver, il n'y en a aucune qui jouait. Hassan ne jouait pas, Fodébal Autouré ne jouait pas, Junior Manga était barré. Et Dieu sait qu'on trouve autour de la table que c'est un bon joueur. Moi, même s'il a moins joué, moi j'ai Diawara. Plutôt aimé Mamadou Diawara.
Oui.
Voilà, je serais même. Alors, je pense peut-être que c'est impossible, mais même moi, je trouve ça intéressant de se le refaire prêter une saison, qu'il fasse une saison pleine, peut-être en Ligue 1, dans un club où peut-être la concurrence est moins féroce qu'à Lyon. Donc il y a ces deux pistes-là et je pense que là-dessus, quand même, Mathieu Bonnemer a quand même les mots qui permettent quand même de toucher ces joueurs-là, en tout cas.
Pas de nom à nous donner, alors, en fait.
Non, mais un championnat
vous
à surveiller.
Vous suggérez la question.
Bah, si je pose la question,
est-ce qu'il y en a
pas...
d'autres qui ont des noms non, c'est...
Moi, j'aurais tendance à dire qu'il te faut quand même un nouveau gardien.
Ewen Jaouen de Dunkerque, non, ce serait pas bien ça pour...
Il appartient à Reims.
Ouais, en plus, ouais, je crois. Non, mais ouais,
ils auront peut-être besoin en Ligue 2.
Je pense que quand même un gardien, là, vu la conjoncture, visiblement Arthur Desmas, ça sent quand même la fin. Je suis pas sûr que Mathieu Gorgelin, il y a un vrai doute sur son avenir aussi. Je pense que ça va être une des priorités, forcément, d'avoir un gardien solide au niveau de la Ligue. Hein. Dans le foot, on te dit souvent, il te faut un super gardien et un bon attaquant.
On perd 15 joueurs, donc il faut renouveler.
De toute façon, il y a tellement à renouveler. Ouais, c'est ça. Il y a tellement à renouveler dans cette équipe qu'il y a tellement de chantiers. Et surtout, avec quels moyens ? C'est surtout ça la grosse interrogation.
Un poste, quand même, qui vous paraît essentiel. Bon, à part, évidemment, il y a le gardien, mais ça va dépendre de.
On a des besoins en attaque, on a des besoins au gardien. Je pense que c'est les postes à verrouiller.
Vous repartirez pas avec Mathieu Gorgelin ?
Moi, je trouve que c'est. Est-ce que Mathieu va vouloir continuer sa carrière ?
C'est moi question d'interrogation que j'ai aussi.
Mathieu, il a fait. Enfin voilà, il a fait une super reprise du poste de numéro 1.
Moi, je trouve que c'est une des décisions fortes quand même.
En Irène où il est passé à côté. Et ça arrive.
Mais c'est bien, c'est qu'il a tout mis dans le même match. Comme ça, parfait, tranquille.
Vaut mieux. Voilà. Mais il nous a fait gagner beaucoup de points. Non, c'est super ce qu'il a fait. S'il pouvait continuer, tant mieux.
Voilà. 35 ans, c'est ça ?
Je crois, ouais, 35
ans. Ouais, en gardien, c'est bon, c'est jeune, ça peut en faire encore plusieurs saisons.
Si
il
continue, tant mieux.
Ou en pire, un petit peu en position numéro 2, comme il était, selon qui tu recrutes en... Non, je sais pas.
Bah, je pense qu'il a plus de chances quand même de continuer en numéro 1 qu'en numéro 2. Enfin, bon, après, moi, je le connais pas personnellement, je connais pas son état d'esprit. Mais si c'est un projet pour être numéro 2, est-ce que ça va vraiment le faire le hype de fou ?
Il aime bien la région. Il fait de la pêche sous-marine.
Voilà, mais. Non, mais quand vous avez beaucoup.
Je savais que l'un de vous allait mettre la pêche sur le.
C'est le fil rouge.
C'est pas la pêche. C'est la pêche. Ouais, pêche en rivière, non ? Ou...
Ah non, non, c'est de la pêche sous-marine.
Non, c'est bien. On va faire un débrief 100% pêche. À décliner pour la saison prochaine. Avec Mathieu Gorgelin en consultant de luxe.
On va enchaîner avec le sujet suivant.
Du coup, on enchaîne. Ouais.
On va aller pêcher.
Tant bien, je suis pas
un propriétaire.
Pêche,
peut-être.
Je connais pas grand-chose.
Bon, on évoquait donc cette conférence de presse. Je disais que voilà, je sais pas si on va savoir beaucoup de choses cette semaine à l'issue de la conférence de presse des dirigeants, mais en tout cas, des rumeurs de rachat, il y en a. Mathieu, c'est du côté de.
Ah, il y en a une.
Voilà.
Principalement, il y a un nom qui est sorti. C'est aussi l'actualité des dernières heures du week-end. Ça provient du journal espagnol AS. Qui est réputé assez sérieux.
Assez sérieux.
Oula.
Donc, il est en forme. Ça va très très loin.
Et heureusement que c'est la fin de saison. Ouais. Hein, parce que...
Et donc, ce qui fait dire que peut-être il y a un semblant de vérité derrière part. Donc, ça fait part de l'intérêt du groupe donc, qui s'appelle Blue Crow, qui est un groupe qui est basé à Houston. C'est aussi un indice.
Aux États-Unis.
Voilà, aux États-Unis, effectivement. La ville où réside Vincent Volpe quand il n'est pas au Havre. Donc on peut dire qu'il y a peut-être une filiation entre les deux. Voilà, donc c'est le journal espagnol qui fait part de ça. Et donc la particularité de ce groupe-là, c'est qu'il a déjà plusieurs clubs. Un club en Espagne, Leganés. Un club au Mexique, Cancun, en D2 mexicaine. Un club à Dubaï aussi.
Plus obscur. Hein.
Voilà. On est vraiment sur le concept un peu de la multipropriété où ça va. Et un club aussi en Tchéquie qui essaye de monter en D1 tchèque. Alors voilà, c'est pas le City Group avec Manchester City, mais en tout cas, ça correspond aux critères de ce qu'on peut appeler la multipropriété. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que nos invités ne vont pas bondir au plafond si dans les prochaines semaines. On nous annonce que le club est racheté par ce groupe qui se prénomme du coup Blue Crow. Chris, un avis sur cette rumeur qui sera peut-être une info dans quelques semaines ?
Alors ouais, donc pour le moment c'est qu'une rumeur, mais moi je me souviens qu'au même endroit, il y a quelques mois, on avait fait l'émission avec Romain où il avait dit qu'on serait très très attentif à ce genre d'éventuel rachat.
Je me rappelle bien aussi.
On s'en rappelle.
Je pense que Flock sera d'accord avec moi, c'est que depuis quelques mois, il n'y a rien qui a changé au niveau de l'attention qu'on va porter à ça. Parce que même si c'est pas du niveau du Citigroup, on sait que ce genre de, on peut voir que ce genre de multipropriété, tout ça, ça, ça a ses limites des fois. Alors que ça soit Blue Co, Blue Crew, c'est pas parce qu'il y a Blue dedans qu'on va.
Mais je crois que c'est dans le cahier des charges.
Facile.
Quand c'est multipropriété, faut marquer Blue.
Maintenant, c'est vrai que c'est le. On est qu'au stade de la rumeur, mais des fois la rumeur.
Mais ça interpelle quand même. C'est une rumeur qui interpelle depuis quelques heures ou quelques jours.
Oui, pas, ah oui, bah oui, tu l'as dit. Houston, As, ça fait beaucoup de points qui, bah, voilà, qui tendent à rendre cohérente cette rumeur. Comme l'a dit Chris, je peux vous donner la ligne de la fédération qui a toujours été exprimée très clairement vis-à-vis de Vincent Volpe, vis-à-vis de la direction du HAC. La multipropriété, on n'en veut pas. Être un club satellite, on n'en veut pas. Diluer notre identité, on n'en veut pas. Donc pour l'instant, c'est dur de se positionner puisque ça ne reste qu'une rumeur non sourcée. On sera attentif à ce qui va se passer. Faut voir aussi où on en est. Hein. Si on joue notre survie, on aura peut-être le couteau sous la gorge.
Oui, parce que
en tout cas, pour l'instant, c'est pas alléchant du
tout. Est-ce que le club aura le choix ? C'est ça aussi. On va rappeler brièvement donc le HAC forcément est un club en difficulté, on va dire financière. Hein. Alors pas parce qu'il vit au-dessus de ses moyens, mais parce qu'il a quasiment pas de moyens, hein, tout simplement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le football français traverse une grave crise financière liée aux droits télé, qui a eu l'histoire de CVC où le HAC n'a quasiment rien touché, donc ils ont pas pu dépenser, ils ont pas touché, et que on sait pas où ça va, et que la saison prochaine, pour l'instant, droits télé, la ligne c'est zéro.
Et qu'il n'y a aucun diffuseur pour le moment officiellement pour
la
saison prochaine.
C'est ce que la DNCG a demandé au club. Hein.
C'est ce que la DNCG a demandé.
Faites vos budgets avec zéro de droit de droit télé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Michel Roussy l'avait expliqué, entre la première et la deuxième saison de Ligue 1, vous êtes passé de 15 millions de droits télé, donc la saison où il y avait Lucas Hesner comme coach. Cette saison, c'est 6 avec la baisse des droits télé, ce qui est déjà considérable à l'échelle. Donc, je répète, aujourd'hui, la saison prochaine, c'est zéro. Donc il y a ce fameux projet de chaîne de la Ligue qui est en train d'être développé. On ne sait pas comment ça va, voilà, mais je ne pense pas que du jour au lendemain, ça va rapporter des centaines de millions d'euros. Donc il y a tout un modèle économique pour plein de clubs qui dépendent des droits télé à revoir, qui vont être obligés aussi de vendre du coup des joueurs. Mais forcément, les acheteurs, ils vont savoir que vous êtes un peu dans la mouise, donc forcément, les prix vont pas être les mêmes. Donc c'est toujours pareil, parce que bon, voilà, il y a aussi, on a parlé des joueurs en fin de contrat, mais il y a beaucoup de joueurs à qui il ne reste qu'un an de contrat. Et je pense qu'ils sont aussi, voire plus importants que les joueurs qui sont en fin de contrat. Aruna Sangante, Etienne Youté qui avait prolongé, voilà, Yacine, Keshta, même un joueur, Gauthier Loris, qui est peut-être, je pense, le top 2 des joueurs cette saison derrière Abdoulaye Touré. Donc il y a tout ça, et donc il y a cette rumeur, donc aussi, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le bilan de la DNCG qui était tombé il y a quelques semaines, et quand vous posez la question à Jean-Michel Roussier, mais vous dites oui, vous perdez de l'argent, mais en fait, c'est quoi? Il dit, on fabrique de la dette. Ça, c'est, vous pouvez pas le faire indéfiniment, c'est pas possible. Au bout d'un moment, votre propriétaire, enfin, sauf s'il décide d'éponger tous les ans, encore faut-il en avoir la capacité, mais il peut pas le faire. Donc, la question, c'est, est-ce que la seule solution que vous avez, c'est de vendre? Et aujourd'hui, les seules, quasiment personnes qui, enfin, personne, c'est pas personne, mais entité, on va dire, qui rachète les clubs, c'est des groupes comme Blue Crow, qu'on connaît très peu, mais oui, qui effectivement ont des sortes de multipropriétés.
Et vous parliez de l'identité, il y a le côté j'injecte de l'argent et je m'occupe pas de ce qui se passe en fait, que vous craignez dans ce modèle-là
À la limite, c'est avec la multipropriété, c'est pas ce qui pourrait nous arriver de mieux qu'une holding qui possède plusieurs clubs laisse les rênes à Jean-Michel Roussier, à Mathieu Bonnemer, injecte de l'argent et ne regarde pas. À la limite, j'ai presque envie de dire que ce sera un moindre mal. Ce qui devient problématique, c'est quand on se fait torpiller son centre de formation, qu'on devient l'équipe réserve d'un club plus gros, satellite. Quand on commence à revenir sur des choses qui sont pour nous des acquis, comme nos couleurs, notre maillot, notre blason, et qu'on commence à faire de nous ce que nous ne sommes pas, là ça devient problématique. En tout cas, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on prend très très au sérieux. On a toujours été clair vis-à-vis de ça, c'est un modèle qu'on n'aime pas, dont on ne veut pas. Et je pense, voilà, après faut pas, encore une fois, faut pas être absolu, faudra qu'on en discute si c'est vrai, mais je pense qu'on préférerait je vais pas dire mourir, mais on préférerait
être très pauvre
plutôt que avoir nié ce que nous sommes.
Mais il y a toute une liste en fait, entre guillemets, d'écueils à éviter. Quand on a un groupe comme ça et qu'on rachète un club, c'est vrai que Vincent Volpe a un lien avec la ville du Havre assez profond, même si c'est fait aussi tenser à un moment, mais il y a toujours un lien, il y est attaché. Là, quand c'est un groupe complètement extérieur, le lien à la base, il n'existe pas. C'est pas pour autant que ils vont faire n'importe quoi. Mais là, c'est vrai que la condition, on va dire la première, pour que ça fonctionne et que ce soit accepté, c'est de garder l'équipe dirigeante en place, qui a, je pense, prouvé sa compétence et aussi qui sait défendre les couleurs du HAC. On parle de Jean-Michel Roussier qui est à peu près toutes les semaines au front sur différents sujets. Donc voilà, donc il y a plein d'erreurs à éviter quand vous êtes dans la multipropriété. Donc faut faire attention à ça, mais voilà, quand vous connaissez pas les personnes, ça peut être compliqué. Maintenant la question c'est, est-ce que vous avez le choix en fait ? Est-ce que Vincent Volpé peut encore continuer ? Hein, on répète hein, quand même, je crois que le Havre a perdu quasiment dans le dernier bilan financier, donc sur la saison dernière, 10 millions d'euros. Là, vous, même plus.
Je crois que c'est 13.
Ouais. Là, vous retranchez 9 millions de droits télé en moins. Donc ça veut dire que vous partez en début de saison à quasiment moins 25.
Sachant que 27, c'est notre budget cette année, si je ne dis pas de bêtises.
Il faut en vendre des joueurs. Hein. Donc attention, enfin voilà, à bout d'un moment, mais malheureusement la réalité.
Et puis surtout, est-ce que Vincent Volpé veut encore mettre de l'argent?
Il l'a déjà
club.
Fait plusieurs années.
Il a déjà fait plusieurs reprises ces dernières années. Est-ce qu'il en a encore?
Je connais pas sa surface financière, hein, c'est toujours pas. Et surtout, est-ce qu'il peut, mais à quelle hauteur? Est-ce qu'il peut, entre guillemets, pour boucher le trou et donc dire, bah, on va encore essayer. Je vois, il y a une déclaration d'Didier Digard ce week-end après le maintien. C'est les miracles, c'est pas une recette en fait. Oui, ça a fonctionné une fois, mais c'est pas un modèle sur lequel on peut s'appuyer. Donc effectivement, pour pérenniser le club en Ligue 1 et pas se sauver tous les ans à la dernière minute du dernier match, même si ça procure des émotions formidables.
Et puis surtout lui donner les moyens d'exister la saison prochaine. Moi, c'est surtout ça en fait. Est-ce que là, dans l'état, le HAC a les moyens pour exister encore en Ligue 1 la saison prochaine?
Alors, faut préciser quand même que ce qu'on dit pour le HAC, ça s'applique à beaucoup de clubs. Plein de clubs. Le français, hein. Il n'y a pas que le HAC.
À tous les clubs, à l'exception de 3 ou 4, quoi.
À l'exception des Européens.
Oui. Et si je peux rajouter, c'est ce qui est paradoxal, parce qu'en fait, il y a 10-15 ans, justement, le but, c'était de réussir pour un promu à se maintenir une, deux saisons, et après de bénéficier des rentrées d'argent pour permettre de passer un cap. Mmh. Or, nous, on se rend compte qu'en fait, limite, plus on reste en Ligue 1, plus on creuse.
Moyen de recette. Enfin, moyen, en tout cas.
Le gâteau
de recette,
se réduit,
vu que t'as plus de droit télé, t'as
oui,
plus.
Oui, et parce que le stade est bien rempli, le merchandising doit mieux fonctionner, mais.
Donc on n'arrive pas à passer ce cap parce que justement financièrement on part déjà de loin, on le sait, et on n'a pas les rentrées que certains clubs ont pu bénéficier il y a une dizaine ou quinzaine d'années qui leur ont permis de passer des caps, d'acheter des joueurs un certain montant, de pouvoir les revendre encore plus cher et donc de...
Et de faire de la plus-value en quelque sorte.
Tu as tout à fait raison, si on était monté un petit peu plus tôt, on ne serait peut-être pas dans cette situation-là aussi, parce que les finances étaient saines, certes il y avait de la dette, mais elle était quand même très contenue, on n'a jamais été des gros dépensiers. La problématique, elle vient surtout de ce superbe mouvement que nous offre Vincent Labrune avec CVC et les droits télé, qui fait qu'aujourd'hui, ce qui devait être quasiment la moitié de nos recettes n'existe plus. Voilà. C'est un fait. Merci Vincent Labrune.
D'ailleurs, une petite banderole.
T'as aimé? J'en ai pas la paternité. J'en ai eu quelques-unes, mais celle-ci, c'est Mimo. Elle était jolie. Hein. Juste pour ceux qui la connaissent pas, c'était Nicolas Caillot, réservait une table vendredi soir et mettait ça sur l'ardoise de Labrune.
Les présidents respectifs de Montpellier.
De Montpellier
et
de Reims.
Non,
et
de Reims.
Oui,
Jean-Bierre.
Et je rappelle juste les dates du mercato qui ouvre à partir du 1er juin jusqu'au 10 juin, parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs cet été, donc ça ouvre avant. Et puis ensuite, ça sera clôturé, ça reprend le 16 et ça se termine le 1er septembre.
Je vous donne les paris qu'il n'y aura quasiment aucun mouvement dans le premier mois. Vu le contexte économique.
Il y a trop d'inconnus, c'est sûr.
Il n'y aura quasiment aucun mouvement. Mmh. Ça va se décanter, mais tardivement, encore une fois. Enfin, comme d'ailleurs souvent ces derniers mercato d'été, quoi.
Les clubs seront un peu attentistes avant de voir.
Tellement dans l'incertitude financière. Qu'est-ce que un club va faire comme mouvement, hormis des clubs qui ont les reins solides?
Éventuellement quelques départs, peut-être, si t'as des opportunités de vente, mais dans le sens des arrivées, c'est assez peu probable.
Eh ben, on se quitte comme d'habitude avec un petit tour d'horizon des jeunes, les Bézos, les U19 maintenus à l'échelon national grâce à leur succès face à Caen. Ça, c'était il y a déjà plus d'une semaine. Hein. Mm-hmm. Ils terminent 10e et évitent donc la relégation. Et c'est bon pour la formation havraise, évidemment. Devrait-on dire indispensable, d'ailleurs.
C'est même une très très bonne nouvelle, ouais, parce que je pense que tu allais en parler juste après, mais quand on voit que la réserve n'arrive pas à accéder à la N3, ça, pour le coup, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Mais...
Ouais, voilà, bah justement, donc déception pour les Ciel et Marines qui ont, ils se sont imposés face à Saint-Lô 4-1, mais c'est la Estreville Deauville leader qui affrontera Cocry-Auville en barrage d'accession en N3. La bonne nouvelle pour Cocry, c'est qu'il y aura peut-être un peu plus de supporters du coup de leur côté. Et puis chez les filles, en U19, défaite à Reims ce week-end 3-1, les Bézos de Ciel et Marines qui terminent quand même première de leur groupe. Alors j'ai pas l'info sur est-ce qu'il y a d'autres rencontres après, mais voilà.
On se doit commencer quand même aussi à toucher à la fin, peut-être qu'il reste encore.
C'était le dernier match, voilà, mais voilà, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus partager vos émotions footballistiques dans le débrief 100% hack, Flock et Chris. Épisode à retrouver sur tendanceouest.com, Deezer, Spotify et chez nos partenaires, footnormand.fr. Mathieu, on a quoi de beau à venir là sur justement les fins de saison, les barrages des réserves,
là on est plus dans le foot régional comme
voilà,
souvent
c'est ce que, ouais.
Et c'est semaine Coupe de Normandie, car les finales de Coupe de Normandie sont le week-end prochain à Flers. Et il y a notamment je crois au moins une ou deux équipes du Havre, notamment chez les jeunes filles, qui en général font des collections de Coupe de Normandie pour se faire des colliers, c'est magnifique. Donc on est plus sur cette thématique là cette semaine.
Et Luc, le Coricochois.
Oui, en tout cas pour le foot régional aussi, un petit focus sur les dernières journées, notamment en R1, en R2, aussi en R3, avec certains de nos clubs cochois. Et puis également sur d'autres sports, là aussi, quelques sujets intéressants, notamment un gala de full contact avec deux ceintures mondiales pour des iftotés. Donc je vous invite à lire le Coricochois ce vendredi.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à tous nos invités cette saison. Merci donc à mes camarades du Courrier Cochois de foot normand. Fin de partie, on se quitte pour une fois avec un petit peu de musique, tiens, pour fêter cette fin de saison et ce maintien. Le dernier titre du plus hackman des rockers british, Pete Doherty, qui nous régale dans son dernier album avec Stad Ocean. À très bientôt. Stad Ocean. Ocean.